the answers.
CKUT 90.3 FM, Montreal. CKUT 90.3 FM, Montreal.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Vous écoutez Les Beaux Sons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute. Notre invitée, Katia Rock, est auteure, compositeur, interprète, comédienne et conteuse autochtone de la nation Innu. Son talent lui a permis de collaborer avec plusieurs chanteuses québécoises comme Joranne, Marie-Claire Seguin, Catherine Durand et plusieurs autres. Katia Rock chante la paix avec douceur et elle est aussi une grande rassembleuse. Elle a toujours su, dans ses projets ou dans ses créations, rallier les gens. Katia Rock a participé à beaucoup de festivals en Europe, en Inde et au Canada et s'est retrouvée deux fois finaliste au Festival en chansons de Petite-Vallée en 2006. Et en 2009. Elle a aussi joué dans plusieurs téléromans québécois. C'est son rôle de Gertrude dans Nana Mesnak, Les adieux de la tortue, qui met en lumière son talent de comédienne et nous l'a fait découvrir pour la première fois dans un rôle principal au grand écran québécois. Kwe Katia Rock, et un grand merci d'avoir accepté l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi, Kwe.
Enfant, tu étais entourée d'une effervescence créatrice dans ta communauté d'origine, Maniutinam, sur la côte nord, près de cette île. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance.
Je viens de Maniutinam, là où j'ai grandi, là où j'ai découvert ma voix à l'église. Il y avait des chants à l'église, puis j'aimais beaucoup les mélodies que le monde chantait. Puis anciennement, c'était des chants traditionnels, mais quand les églises sont arrivées, ils ont transformé, fait qu'ils ont enlevé plusieurs choses. Dans ma démarche, j'essaie de retrouver les chansons originales de ce lieu culte-là, là, tu sais.
Oh, wow!
Ouais. C'est à 14 ans que je suis partie, que j'ai décidé de partir. Je rêvais de m'en aller en ville parce que j'avais vu un film. Puis là, je rêvais de devenir une artiste et je rêvais de jouer un personnage, de pouvoir chanter, danser. Et je suis arrivée à Montréal à l'âge de 14 ans.
Wow! Mais c'est ça, j'ai vu dans ton parcours qu'à 14 ans, tu as été initiée à la composition avec Claude McKenzie.
Oui, c'est ça. Il vient de la même communauté que moi. J'ai eu la chance de le voir composer, de le voir écrire. Et à partir de ce moment-là, des fois, il cherchait des mots. Des fois, c'était des accords. Ça, dans les accords, je pouvais pas l'aider. Mais à cette époque-là, je l'observais beaucoup. Puis inconsciemment, plusieurs années plus tard, j'ai écrit mes premières chansons avec le tambour. Parce que le tambour, chez nous, est réservé aux hommes et réservé aux chasseurs. Lorsque j'ai fait ce rêve-là, ça m'a doublement amenée à la musique. Je suis allée rencontrer les aînés, puis je me suis assise sur le plancher avec le tambour. J'ai écrit la majorité de mes chansons assis sur le sol.
Wow! Le tambour était réservé aux hommes, mais comment tu as réussi à apprendre cet instrument-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te l'a montré?
Ben, il y avait une école à Montréal qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui faisait des échanges à l'époque des années 90 entre Montréal et Natashquan. Puis eux avaient reçu un tambour. Lorsque j'ai fait mon tambour, je suis allée rencontrer des femmes aînées qui, dans cette famille-là, il n'y avait pas d'homme, fait que le père le donnait à leur fille.
OK.
Que ce soit le bâton ou le tambour traditionnel. Moi, je suis allée rencontrer ces femmes-là, je suis allée leur raconter mon rêve, puis ils m'ont chanté leurs chansons, puis chez nous, les chansons s'offrent, se donnent comme ça. Fait que je suis partie avec ces chansons-là, puis une chanson de Cyril Fontaine aussi, avec laquelle j'ai fait mes débuts à Montréal, qui s'appelle Nokum, en hommage aux grands-mères.
Mukam din ashkam da shatita
Nous sommes de retour avec Katia Rock. Pour en revenir avec Claude McKenzie, tu as vu naître le groupe Kashtin. Qu'est-ce que tu retiens de cette période?
Une belle époque remplie d'excitation, de voyage et la recevance du Québec. Quand Kashtin est venu au monde, je me souviens qu'à l'époque, on faisait la tournée sur la base Côte-Nord et moi, je vendais des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Puis moi et la femme de Florent Volant, on faisait du porte-à-porte dans les communautés. Ça a commencé comme ça.
Okay.
Puis, lorsque sont venus chanter à Québec, là, ça a commencé. Un producteur les a vus, les a découverts, puis a décidé de les signer, puis de les amener là où ils devaient aller. Écoute, ça a été une vraie tornade au Québec, dans les radios, dans les émissions de télévision. Puis moi, je voulais tout voir à l'époque. Je voulais tout savoir. Je voulais comprendre les rudiments du métier. Alors, j'accompagnais Kashtin un peu partout. Puis aujourd'hui, mon Dieu, je bénis ce moment parce que là, c'est à mon tour de vraiment travailler sur mon album, sur mes affaires, de me créer une équipe puis de savoir où m'en aller pour chaque étape d'avancement.
Ça t'a apporté une expérience aussi de les suivre comme ça?
Ah oui, vraiment, de décharger les d'aller, de les suivre. À chaque fois qu'on arrivait à une ville, il y avait des entrevues. Après ça, c'était des tests de son dans la salle de spectacle, le show. Le lendemain, on repartait. C'était formidable. T'sais. L'accueil était grande. L'accueil était là, présente. Ça a été vraiment un grand moment, je te dirais, pour les nations autochtones du Québec.
Tu as appris ta langue à 17 ans. Maintenant, tu l'écris et tu la chantes. Est-ce que tu parlais seulement en français dans ton enfance?
Toute ma vie, j'ai parlé français.
Okay.
Mes parents ont décidé de me donner une chance de m'intégrer au Québec, donc ils m'ont enseigné le français. Mais j'ai entendu les mots avec toutes sortes d'expressions. Puis des fois, je mélangeais les deux langues comme ça. Mais c'est quand j'ai rencontré un jeune homme de Shahadit que là, j'ai vraiment débloqué et j'ai parlé couramment.
Okay.
Fait qu'à partir de ce moment-là, quand est venu le temps d'écrire des chansons, automatiquement, la langue inno est sortie. Puis aujourd'hui, tu vois, je n'écris pas le français, j'essaie, mais je me sens plus confortable de chanter dans ma langue, de l'écrire et d'essayer de trouver des vieux termes parce que la langue, t'as la langue de territoire et t'as aussi la langue de la communauté avec toutes les nouvelles technologies, la télévision, l'Internet, le web, les iPads. Fait que les linguistes travaillent sur tout ce qui est adaptable aujourd'hui. Mais dans le territoire, c'est là, entre deux versants, au bout de la rivière, il y a un lieu précis. Pour définir la neige, il y a 36 façons de définir la neige. Tu sais.
Wow.
Fait que c'est riche, c'est merveilleux. Et moi, j'aime travailler des fois avec des auteurs qui m'amènent ce côté-là là, mm-hmm. dans ma langue. Fait que je trouve ça le fun.
Ben oui, absolument. Tu disais tantôt que tu t'es exilé à Montréal à 14 ans, mais est-ce que tu y retournes souvent dans ta communauté?
Ah, j'y retourne à chaque année. Aussitôt que je peux, j'y retourne. Je dois parce que dans la ville, tout va vite.
Oui.
Tout est stress, bruit, tout est empathique. T'sais, quand j'arrive chez nous, c'est le calme, le silence, c'est les bruits de la mer, c'est les bruits du vent à travers les épinettes. Moi, c'est ça que ça me prend, là, tu sais, pour aller me reposer puis aller me gazer encore pour prendre l'énergie pour revenir à Montréal.
C'est un ressourcement.
Ah oui, totalement. Un ressourcement qui nourrit l'âme, là, tu sais.
Et l'histoire de ton grand-père a vraiment été une inspiration pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière?
Ça fait plusieurs années que je tourne autour des festivals de contes. Puis sans jamais me poser des questions. Puis dans un moment difficile dans ma vie, ma tante Anne m'a raconté une histoire qui m'a bouleversée totalement. À partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches, je suis allée rencontrer mes oncles et mes tantes du premier mariage de mon grand-père. Après ça, je suis allée rencontrer des aînés parce que chez nous, chez les Inuits, il y a un rassemblement d'aînés à chaque année, puis ça se déplace un peu partout dans plusieurs communautés Inuits.
Okay.
Donc, je vais dans ces endroits-là et j'amène mon enregistreuse et je pose plusieurs questions. À partir de ce moment-là, j'ai écrit un conte avec 6 personnages de femmes, 8 personnages d'hommes, puis j'ai créé 4 personnages, puis on monte dans le territoire, puis là, moi, je découvre les lieux cultes, les histoires qu'on racontait à l'époque. Il y a tellement d'histoires, écoute, ça serait une mini-série totale au Québec. Là, d'ailleurs, j'invite les scénaristes à venir me contacter. C'est tellement grandiose, puis lorsque je regarde la map Québec avec les noms des communautés, avec les 11 nations. Je vois le croisement de chaque nation venir se rencontrer dans un lieu précis et où il s'est passé quelque chose. Fait que c'est passionnant. Sans m'en rendre compte, j'ai fait un album. Je suis en train de terminer un album.
Okay.
Puis on a choisi des chansons, moi et mon réalisateur, François Lalonde. Et je me rends compte qu'avec tout ça, c'est du territoire que je parle. C'est de mon grand-père que je parle, c'est de ma grand-mère, c'est ma nation. Puis, tu vois, quand je suis arrivée à 14 ans à Montréal, dernièrement, j'ai reçu ma petite-fille ici. Je l'ai amenée avec moi pendant 3 semaines à Montréal. Elle a réalisé, en voyant un juif marcher, un jeune juif, un adolescent, puis là, elle dit, « Ah, il n'y a pas juste des immigrés. » Ça m'a ramenée à moi à 14 ans. À 14 ans, j'ai des amis qui m'ont accueilli, qui m'ont initié à la ville, qui m'ont montré comment les autobus fonctionnaient, le métro, les services pour les autochtones, tout ça. Mais quand je suis arrivée à Montréal, je savais que j'étais autochtone, j'étais Inuit, mais sans plus. Puis, au bout de ça, j'ai appris ma culture, j'ai appris ma différence. J'ai appris que j'avais des mœurs et des traditions et une culture différente que les autres. Jamais je ne m'étais posé cette question-là. Plus je grandis et j'évolue dans la vie, plus je me rends compte qu'aujourd'hui, écoute, j'ai une appartenance millénaire.
Oui.
Je suis millionnaire.
Absolument.
De savoir ancestral. Et tout ça me sert aujourd'hui, pas de la mauvaise façon. Aujourd'hui, on entend parler, on a entendu longtemps parler des pensionnats. On a entendu longtemps parler des femmes disparues. On entend plein d'histoires, des histoires tragiques, tu sais.
Oui.
Mais moi, dans tout ça, je me dis, où je me situe? Tu te situes où, Katia? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est sûr qu'il faut en parler encore. Mais je me concentre sur la beauté de la culture pour dire qu'est-ce qui nous a sauvés à travers toutes ces années-là. C'est nos danses, nos pow-wow, c'est nos régalias, c'est nos tambours qui nous ont sauvés de toute cette histoire triste-là.
C'est ça, puis vous êtes vraiment un peuple résilient aussi.
Ah, oh, totalement, la résilience fait partie partie de nos gènes sans vraiment s'en rendre compte. Moi, mes parents sont allés au pensionnat. Mmh. J'ai vécu le début de mon enfance dans une violence extrême. Puis mon père a décidé de cheminer, puis d'arrêter de consommer. Puis plus tard, il est devenu un homme bien. Là. Mmh. Puis ma mère, elle s'en est retournée dans ses racines, dans le côté traditionnel, puis dans le spirituel et tout. Fait que ces enseignements-là me sont venus par la suite. Et lorsque je me pose des questions et lorsque je vis quelque chose de difficile, j'ai encore des enseignements. Ma coloc, qui est ma cousine, est une porteuse de pipe, est une danseuse traditionnelle aussi. Fait qu'à travers elle, partout dans mon cheminement, que ce soit personnel, en tant que femme, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me transmettent, qui me partagent leurs connaissances. Et je suis en infinie gratitude constamment, à tous les jours. Je remercie le ciel et l'équipe qui est avec moi aujourd'hui, mon équipe de production qui m'aide à mettre au jour tout ce que je suis en tant qu'artiste.
Mmh, c'est vraiment riche aussi, tout ce que tu as dit, aller chercher avec les aînés.
Oh mon Dieu, j'ai des heures et des heures d'entrevues, puis des fois, je réécoute ces enregistrements-là, et il y a toujours un message derrière ça. Mmh. Il y a toujours une compréhension, je fais une connexion, je dis « Ah, OK, c'est là, c'est ça pour que je fasse. » Mmh. Fait que c'est passionnant. Je suis une passionnée. On dit parfois que je vis entre le monde réel et le rêve, là, mais c'est ce qui me nourrit dans la vie.
Oui.
Aujourd'hui, je suis une formation en collaboration avec le Wapikoni Mobile au quai 5160 à Verdun. Et je suis extrêmement reconnaissante parce que c'est une nouvelle façon, une nouvelle technique de porter encore un autre message de paix, de sérénité et de résilience. Mmh. Et c'est à suivre au mois d'août.
On écoute Chachitoun de Katia Rock et on revient tout de suite après.
Je t'aime, je t'aime.
Nous sommes de retour avec Katia Rock. Est-ce que tu as vu une évolution de la condition de la femme dans ta communauté et dans ton environnement?
Ah, c'est sûr. On grandit toujours à tous les jours. Il y a toujours des nouvelles choses qui nous font grandir, dont les 751 enfants qu'on a trouvés dernièrement.
Ouais.
Et puis, ça va se poursuivre encore, là, tu sais. Puis, tu vois la force, le cercle, de plus en plus à travers le Canada et le Québec qui sont en lien continuellement et on se supporte mutuellement à chaque pas, à chaque avancement. Autant au niveau des enfants, au niveau de nos aînés, au niveau du peuple en général, là, de toutes les nations. Tu vois, au Canada, on a 633 communautés. Au Québec, on en a 53. À travers ces nations-là, à travers toutes ces communautés-là, il y a 200 qui n'ont pas d'eau potable et qui n'ont pas d'électricité.
C'est épouvantable, ça.
Fait que tu vois tout ça, là, toutes ces histoires-là là, qui rejaillissent, qui refont surface. Nous, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on n'est pas écouté.
Mm.
Les enquêtes sont tablettées. On s'en va où avec tout ça, là? Moi, ma question, c'est comme posons action, écrivons l'histoire à partir d'aujourd'hui. Comment tu veux m'aider? Comment tu veux m'aider au niveau musical, dans l'industrie musicale? Comment tu veux m'aider à faire... Ce serait pas formidable d'avoir la ville de Montréal avec des œuvres autochtones partout à travers la ville?
Mm.
Moi, je rêve de ça. Je rêve d'un immense campement. Je rêve que toutes les nations viennent montrer, partager leur savoir, leur connaissance.
Ce serait extraordinaire.
Ce serait fabuleux. Alors, j'appelle la ville.
Oui. Ce qui est spécial, c'est qu'en 1982, l'Assemblée des Premières Nations qui a suggéré la création d'une journée nationale de la solidarité autochtone dédiée à la reconnaissance. En 1990, c'est le Québec qui décide avant toutes les autres provinces et tous les autres territoires d'instituer le 21 juin comme la journée de célébration de la culture autochtone. Comment explique-t-on que la fête nationale des Autochtones soit moins célébrée ici au Québec qu'au Canada?
Ben, je ne comprends pas. À Winnipeg puis à Vancouver, c'est des lieux... Écoute, la culture est partout, à l'aéroport, dans la ville, partout, tu sais.
C'est ça.
C'est grandiose, c'est magnifique, là, c'est le fun, tu sais. Puis le 21 juin est célébré, télévisé là-bas. Ici, il n'y a rien.
C'est ça, je comprends pas.
Il faut qu'on dépose des projets aussi, puis souvent on est refusé. Là, Elisapi vient de faire une œuvre exceptionnelle, je l'applaudis, je suis tellement fière qu'elle ait fait cette émission-là, le solstice, et c'est merveilleux, l'as-tu vu, je l'ai vu, écoute, j'ai pleuré lorsque j'ai vu Canen chanter en duo avec Jean Cormier, un gars de Sicile, tu sais, c'est ça que ça devrait être aujourd'hui, les mariages, les maillons, tisser les maillons ensemble, tu sais.
Oui, absolument.
Créer ensemble, se raconter notre histoire, se raconter nos passions, se raconter pour créer quelque chose de beau. Moi, je vote pour ça, là.
Absolument, moi aussi. Et ton univers musical est très théâtral et teinté de poésie.
Ouais.
Où est-ce que tu puises ton inspiration?
Écoute, moi, j'ai été pendant 12 ans avec la compagnie de théâtre Ondinoc, où j'ai connecté mon monde spirituel à ce moment-là, de me faire confiance et de descendre pour aller. Quand tu joues un personnage, tu le construis, tu le modèles, t'enlèves, t'en rajoutes, donc tu deviens en connexion avec le personnage que tu donnes à la télévision dans les longs métrages. Tu sais.
Ouais.
Chez nous, la technique de jeu, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment de se faire confiance et de s'abandonner le plus possible et de jouer, de s'amuser, de jouer. Ça le dit, on joue. Puis ça, ça a été mon premier apprentissage. Ensuite, j'ai été à l'Académie Joanne Rabhi.
Oui.
Joanne Rabhi a changé ma vie.
C'est vrai.
Parce que quand j'ai commencé à chanter, je chantais en petite boule, le tambour face à moi, puis le monde avait de la misère à me mic'er, à installer des micros autant pour mon tambour que pour moi. Aujourd'hui, je suis capable de chanter debout en regardant les gens devant moi, puis de chanter pour eux. Tu sais, c'est...
Ouais.
C'est comme je donne, tu me redonnes. C'est comme une autre technique de jeu, tu sais,
ouais.
Où on maîtrise l'histoire, le chant.
Ouais.
Fait que ça fait partie de moi. Et ce que je viens de découvrir dernièrement, c'est le conte. Le conte où le théâtre et le chant viennent combiner, où je nourris ces deux disciplines-là à celle du conte et je me sens totalement en harmonie avec ce que je donne. C'est sûr que j'ai jamais fini d'apprendre. Je veux apprendre. Moi, je suis une éternelle étudiante.
Oui.
J'aime comprendre le pourquoi du quoi puis tout.
T'es une passionnée.
Oui, je suis une passionnée puis j'aime ça, tu sais.
Oui.
Mais quand je peux amener le conte dans une réalité virtuelle, puis tu découvres une autre partie de moi où t'entends, tu vois quelque chose de différent, ben si je peux amener l'art autochtone de ce que moi je fais, de ce que moi m'inspire et me nourrit, ben, je vais l'amener là où il doit être.
Oui, j'ai vu dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone, tu as participé à l'heure du conte dans l'espace jeune de la Grande Bibliothèque.
Oui, oui.
C'était vraiment très beau ce que tu racontais. Qu'est-ce qui t'interpelle dans cet art-là? On te sent un peu plus fébrile aussi avec le conte, malgré toute ton expérience sur scène.
Oui, mais je commence, hein, puis jouer devant une caméra sans public, ça, c'est une autre affaire, c'est une autre réalité. Tu sais.
Oui.
Mais jouer devant du monde, puis raconter une histoire devant du monde, c'est un autre univers, un autre ensemble de trucs. Tu sais.
C'est ça.
Fait que c'est vraiment... Mais j'aime ça. J'adore ça. Écoute, je suis une passionnée. Fait que le conte m'apporte beaucoup, beaucoup, me nourrit beaucoup. Me reconnecte avec moi-même, avec mon enfant intérieur, mon côté spirituel de ma culture. C'est vraiment, je me sens dans mon élément, je te dis.
Et c'est toi qui les écris, les histoires?
Oui, oui.
Wow.
Il y a des histoires qui m'ont été racontées, où j'ai nourri ces personnages-là, j'ai construit, j'ai bâti ces personnages-là. Mais il y a d'autres affaires qui n'existent pas, que moi, je me disais, c'est drôle, il faut que j'en parle.
OK.
Donc, c'est vraiment, je te dirais, là, de ne pas apprendre un texte par cœur, de ne pas apprendre une chanson par cœur, de ne pas avoir un metteur en scène et l'éclairage et tout ce qui vient avec une production. Là, tu parles, puis tu racontes, puis les gens te regardent, rient. Fait que ça te donne l'énergie à trouver des nouvelles techniques, des nouvelles avenues encore, tu sais, de tissage, d'histoire. Puis je me dis, ça, je vais garder ça, ça, c'est bon. Des fois, écoute, je me trompe. Mais des fois, ça fait des moments magiques. Là.
Ouais. On va écouter ta chanson « Quand le jour se lève » que tu as écrite avec ta complice musicienne Louise Poirier.
Oui.
C'est une chanson magnifique et tu es resplendissante dans le vidéoclip aussi. Est-ce que tu veux nous la présenter?
Ah, écoute, un des plus beaux festivals au Québec, c'est la Petite-Vallée. Parce que les autres m'ont refusé, parce que je chantais dans ma langue. Et la Petite-Vallée, pour moi, je le garde dans mon cœur parce que c'est les seuls, les uniques qui ont accepté que je chante dans ma langue et aussi un peu en français. Donc, quand le jour se lève, c'est le fond de l'histoire et ma rencontre avec Louise Poirier a été fabuleuse et est encore fabuleuse aujourd'hui.
J'appelle les anciens. faut rêver son corps et ses pieds battant le sol. J'appelle la tribu, le monde entier, car il faut le rêver. Beau.
Nous sommes de retour avec Katia Rock. En 2017, tu as initié le projet Mamuitoun. Dans quelle optique as-tu mis ce projet sur pied?
Mamuitoun veut dire rassemblement, se rencontrer, créer une rencontre. Et ça faisait plusieurs années que je rêvais de chanter en duo avec du monde et de faire entendre les langues autochtones.
Oui.
Surtout de faire entendre les langues autochtones du Québec, qui est en train de disparaître tranquillement. L'idée, c'était de faire la rencontre entre des auteurs, compositeurs, interprètes qui avaient une autre langue que le français ou que l'anglais. Et je me suis dit, voilà, j'ai contacté plusieurs artistes. Certains ne pouvaient pas, certains pouvaient. Puis j'ai créé ça. J'ai dû repousser tout le projet de un an pour avoir la disponibilité de tous et chacun.
Okay.
J'ai attendu un an, c'est long, là, tu sais.
Oui.
Mais j'ai réussi à mettre tout le monde pendant 5 jours dans un même lieu, dans les Laurentides, à Sainte-Lucie-des-Laurentides.
Mm-hmm.
Fait que, à passer 5 jours dans la création la plus totale, et François Lalonde a enregistré ces maquettes-là, qui sont encore des maquettes. Puis je rêve qu'un jour, avoir quelqu'un d'assez solide pour à côté, mettre au monde ce beau projet-là.
Est-ce que tu voudrais en faire un album?
Éventuellement, oui.
Ça serait génial.
Oui.
J'ai vu que Marco Cagliari était dans ce projet-là.
Ah oui, Marco Cagliari est là, Bia, Mlle Ruiz, Catherine Durand, j'ai Geneviève Toupin, j'ai Marc Derry, qui était, lui, c'est un amour total sur deux pattes, qui lui, cette fois-là, voulait chanter en inoptitude. Il me dit, moi, Cathy, je veux chanter en inoptitude. Fait que je l'ai mis avec Béatrice Deer, qui est une artiste formidable, c'est une étoile montante, une merveilleuse auteure-compositrice. Et j'ai Laura Nicoué aussi, j'ai Linda Tally.
Oui.
Linda Tally, écoute-moi, Linda Tally, là. Fait que je voulais mettre plusieurs cultures ensemble et que tous chantent dans la langue de l'autre et que ça fasse une grande valse. Puis que ces œuvres-là voyagent à travers Montréal, à travers le monde, à travers le Québec, le Canada, partout, tu sais. Parce que ça, c'est un pas vers demain.
Absolument. Puis c'est un projet que je comprends pas qu'il soit pas déjà en disque, sérieusement, avec tous ces gens-là.
Ouais, c'est tough à faire financer. Mmh. C'est tough à... Je sais pas. Je me souhaite quelqu'un. Je demande à l'univers, envoie-moi quelqu'un qui a des reins assez solides pour m'aider à concrétiser et à mettre ce projet-là au monde.
On l'espère. Est-ce que le projet Le Petit Castor avec Nadine Samuel est une continuité de Mamuitoun?
Je suis déménagée dans les Laurentides. Puis Le Petit Castor, ça, je voulais vraiment inviter des auteurs-compositeurs à organiser des spectacles maison. Malheureusement, à cause du COVID, à cause de tout ce qui s'en est suivi, j'avais booké plusieurs spectacles, mais finalement, j'en ai donné aucun à cause du COVID.
OK.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses donner suite à ce projet-là?
Je rêve tout le temps, tu vois. Moi, je suis partout, je fais plein d'affaires. Je suis un popcorn, là, tu sais. Je suis un popcorn avec un mini-wheat des deux côtés, là. Tu sais, je suis en éternelle création tout le temps, tu sais. Mais oui, j'aimerais ça.
J'espère que tes créations vont se rendre au grand public parce que c'est vraiment merveilleux ce que tu fais.
Oui, je suis une passionnée, tu sais.
Ouais. Tu as fait un spectacle slam poésie avec Natacha Canapé-Fontaine. Est-ce qu'on peut espérer te revoir dans ce genre de spectacle?
C'est sûr qu'il y a plusieurs organisateurs qui mettent des projets en branle qui ressemblent à ça, où on fait des collaborations et tout ça. Fait que ça a été une belle collaboration parce qu'on nous a réunis ensemble sur la scène et c'est des beaux petits moments popcorn que j'appelle parce que c'est unique. Et je souhaite encore de recollaborer avec cette femme merveilleuse parce qu'elle est géniale, écoute. Elle est géniale, Natacha.
Oui, absolument.
Vraiment, je suis vraiment fière de sa route et de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle fait. T'sais.
On va écouter Impulsion. Veux-tu nous dire un mot sur ce texte?
Impulsion était un texte écrit par une de mes amies de cette île qui s'appelle Joanne Roussy. Et souvent, on a des petites bulles comme ça. Lorsque je vais sur la Côte-Nord, je m'en vais à sa routine, on jase de tout et de rien, de la vie. Puis, j'aimerais ça écrire, j'aimerais ça parler de tel sujet. Donc, elle m'a écrit Impulsion. Et j'avais Kawanda que j'ai vu un jour dans ma vie. Puis, j'ai été carrément en amour avec le groupe, avec la musique que ces musiciens-là faisaient. Puis là, j'ai demandé à Normand Guilbeault, est-ce que tu voudrais m'accompagner pour ce texte-là? Il a accepté et le Wapikoni Mobile a fait le reste.
« instinctive envie de tout faire vite. Étranger est celui qui ne se dissout pas. Pourtant, une mouvance, une onde, un océan nous réunit. Nous sommes tous. Moi qui suis nomade, je vis en ces terres comme j'aurais vécu ailleurs, dans une culture importée. Inadapté. Je me tiens sur le bord de la forêt dont mes parents m'ont parlé. Je consulte l'aîné, lui peut-être aussi.
Nous avons le plaisir d'être avec Katia Rock. Tu as été comédienne dans la pièce de théâtre La cartomancie du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de ce projet et ce que ça t'a fait vivre aussi d'y participer?
Oh mon Dieu, ça a été... Ce projet-là a commencé en lecture pour devenir une pièce de théâtre qu'on a présentée aussi en Europe. On s'est promené un peu au Québec et ça a eu un bel accueil. Mais c'est une pièce qui est venue me chercher... Loin dans mes tripes. Puis, à un moment donné, pour ma santé, j'ai dû arrêter parce que c'était trop lourd pour moi.
OK.
Mais ça prend des pièces coup de poing comme ça parce qu'on connaît Philippe Ducrot, c'est des pièces qui réveillent, qui stimulent, qui fait bouger, qui fait réagir. Et sur le coup, quand tu lis, tu fais que lire. Mais quand tu l'interprètes pour le donner au public, là, à ce moment-là, l'émotion va changer, le corps va se mouler au texte.
Ouais.
Et ça m'a fait un peu bobo, je te dirais. Mais je souhaite que cette pièce-là vive encore tant aussi longtemps que ça prend ces pièces-là au Québec.
Ouais. Et quel est ton plus grand souhait pour les communautés autochtones?
Moi, mon plus grand souhait, écoute, ça fait 35 ans que je suis à Montréal et je rêve de re-avoir le 21 juin, puis que les 11 nations viennent s'installer et partager leur culture, leurs histoires, leurs traditions. Mon plus grand rêve, mon plus grand souhait pour la ville de Montréal, c'est ça, qu'on nous reçoive avec les deux grandes mains ouvertes et qu'on nous fasse de la place dans toutes les disciplines artistiques, puis partout, tu sais, partout.
Oui, autour de Montréal, je pense qu'il y a juste le powwow de Kanawaki.
C'est entre nous, on organise nos événements pour nos Autochtones à travers le Québec, mais jamais l'appui financier de la ville, ou peut-être des fois c'est un terrain qui vont nous passer, mais pas... Moi, je rêve qu'on ait une journée au Francophonie de Montréal, journée autochtone.
Wow, oui, ça serait génial.
Mon plus grand rêve, le 21 juin, là, c'est ça que je rêve, c'est ça que je veux. Puis mes prières s'en vont là-dedans. Là. C'est vraiment, c'est ça que je vis.
Et en tant qu'Inou, même si tu chantes aussi en français, est-ce que tu penses que c'est plus difficile de se tailler une place dans l'industrie musicale au Québec?
Définitivement, dans toutes les sphères de l'industrie musicale. À cause de la loi 101, on doit chanter 65% français et on doit diffuser des œuvres 65% français. Fait que moi, en tant qu'auteur, compositrice, interprète, au niveau de la distribution, au niveau de la production, au niveau de la diffusion, de toutes les sphères, toutes les étapes de la commercialisation d'un album, là, oui. C'est plus difficile pour un Autochtone de se tailler une place au Québec. Mm. Je plains ça parce que, écoute, on a tellement à apporter, on a tellement de choses à partager, à montrer, à enseigner.
C'est ça.
Je ne comprends pas ça.
Non, c'est effectivement, le Gala de la Disque a créé une catégorie chansons autochtones.
Ah oui.
Qu'est-ce que tu en penses de
ça? Sur le coup, moi, j'ai été contente parce que c'est la première fois en 25 ans de métier de chanteuse que je vois enfin vraiment une place.
C'est ça.
Puis je me dis, yes, si le Gala de la Disque nous offre cette vitrine-là, à ce moment-là, toutes les autres n'auront pas le choix de suivre.
Ouais.
Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Fait que je fais un appel pour dire, accueillez-nous!
Oui, il y a de la place pour le progrès, c'est clair.
Oui, à Montréal, c'est rempli de multiculturalisme, de plusieurs cultures différentes et de beauté, tu sais. Je rêve. Écoute, je fais juste rêver dans la vie. Puis je pose action, même si on m'écoute pas ou on ne répond pas à mes courriels, je sais qu'il est pareil.
Ouais.
Le monde lit mes courriels pareil.
C'est ça, tu lances des perches. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'attraper, on l'espère.
Oui, vraiment, sincèrement.
Et du côté personnel, quel serait ton plus grand rêve?
Que la ville de Montréal nous donne une place.
C'est le même.
Ben, écoute, je rêve à ça. Ça, je rêve qu'il y ait plusieurs mamoudounes. Je rêve que la musique autochtone des 11 nations, des artistes, on en a à la tonne. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je vais vous référer tous les artistes existants au Québec dans les communautés autochtones. Moi, mon rêve, là, ce serait vraiment ça, de montrer toutes les langues autochtones, de faire entendre les langues autochtones à Montréal.
Oui, ça serait génial parce que c'est aussi méconnu qu'il y a 11 communautés différentes, il y a plusieurs langages.
Oui.
On vous entend pas assez.
Non, c'est ça. Puis là, je souhaite qu'on nous invite, qu'on nous inclue dans le 24 juin ou la fête du Canada, ou pas juste pour cocher la place qu'on a appelée une minorité visible. Non, plus que ça, aller plus loin que ça, tu sais. De dire, prenons, donnons-leur de la place, faites de la place.
Oui.
Ouais, vraiment.
Tantôt, tu parlais que tu travailles sur ton album « Terre de nos aïeux » réalisé par François Lalonde. Est-ce qu'il est disponible au moment où on se parle ou ça s'en vient?
Non, ça s'en vient. On est en train d'être dans les derniers milles du mastering. Puis de justement, cette semaine, je rencontre mon équipe pour passer à une autre étape encore. Là. Fait qu'on avance. On avance, puis ça va sortir. Ça va sortir quand ça va sortir.
J'ai vraiment hâte d'entendre.
Ah, ben moi aussi, j'ai hâte que vous entendiez. C'est un long processus, un long cheminement. Tant spirituel, intérieur, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste. C'est mes 25 dernières années dans cet album-là.
Est-ce que tu as d'autres projets qui sont s'en viennent?
Pour l'instant, je me concentre sur la formation en réalité virtuelle avec le Wapitoni Mobile et mon album. Puis j'ai aussi un spectacle de conte que je vais faire prochainement. Là, je vais travailler vraiment sur le monde des esprits, ce genre de trucs-là. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous veniez voir.
Oui, absolument. On peut te suivre aussi sur ta page Facebook, Katia Rock, et sur ton site web, katiarock.com.
Oui.
On va se laisser avec Wichinan. Est-ce que tu veux nous la présenter?
Wichinan, je l'ai écrit à Montréal, dans un quatrième étage.
OK.
Et j'ai écrit cette mélodie-là. Ça m'a fait penser à ma grand-mère. Alors, c'est un hommage envers Kimishite, ma grand-mère à moi, de dire « Accompagne-moi, nourris-moi encore, parce qu'elle est décédée. Mais à travers le monde des esprits, descend et vient me guider. »
Je
grand merci, Katia Rock, d'avoir été avec nous. J'ai adoré en apprendre plus sur toi. Je te trouve lumineuse et j'espère qu'on entendra parler de toi encore longtemps. Merci beaucoup pour cette belle rencontre.
Merci.
On écoute Où à peine nous t'as de Katia Rock.
Hurry up.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Un grand merci à Katia Rock d'avoir accepté l'invitation. On va vous tenir au courant dès la sortie de son album. Nous, on se donne rendez-vous le 19 juillet prochain à 19h pour une autre émission de Lesbosson avec notre invitée Sophie D, qui a fait un album hommage intitulé Clémence, un hommage musical en 10 chansons à la grande poète québécoise Clémence Desrochers. Prenez soin de vous et à très bientôt.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collecte. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
CKUT on the air, live, CKUT. CKUT, CKUT.
The following is a previously broadcast program. Listening to Underground Sounds on CKUT. I'm your host, Nick Schofield. Thanks for tuning in. This is the Monday, April 4th, 2021.